Eh bien, bonsoir à tous, toutes, les présents à Paris et les présents à distance. Donc, je vous propose de commencer la troisième séance du séminaire de cette année en rappelant la conclusion de la précédente séance où vous aurez compris que je proposais substantiellement, au fond, de distinguer la notion d'autonomie de celle d'émancipation ou l'inverse, de dire que l'émancipation ne doit pas être confondue avec un devenir autonome, au fond pour la raison que l'autonomie est la prise en charge par soi, d'un ordre ou d'une contrainte qui sont extérieures au soi, hein, qui devient, c'est le autonome. Une intériorisation de du registre, disons, de la nomos, de l'ordre, ou de la contrainte, ou du pouvoir, je ne sais pas. J'avais essayé de vous suggérer, en d'autres termes que ce que je vais dire à l'instant, mais au fond quand même de suggérer qu'il n'est pas impossible de penser, il ne me semble pas impossible de penser, d'autant plus qu'on a maintenant l'expérience de tout un management qui fait fond sur la notion d'autonomie, il n'est pas impossible de penser que l'autonomie soit en fait une hétéronomie déniée. Soyez. Alors je crains une fois de plus d'avoir un problème d'alimentation électrique. Non ? Bon, alors c'est bon. C'était juste mal raccordé. Donc, excusez-moi. Donc, je disais qu'il n'était pas impossible que l'autonomie soit, au fond, une hétéronomie déniée, prise en charge par soi, sur soi, d'un ordre qui, en réalité, n'est pas autonome, mais hétéronome. Le mouvement de l'autonomie, ou vers l'autonomie, parce qu'il implique l'intériorisation d'un ordre, ne va pas dans le sens du mouvement qu'on entend se dire dans le mot même d'émancipation, le ex latin, hein, qui implique la notion d'une sortie. Au moins, en tendance, dans le mot émancipation, est impliqué dans le mot même la notion une sortie d'un passage au dehors. Donc c'est le mouvement inverse, d'une certaine manière, de l'autonomie. Or, c'est ma thèse pour toute cette année, dans cette sortie, par hypothèse d'une situation première que serait l'émancipation, dans cette sortie vient toujours un moment, et qui serait, à mon sens, au moins par hypothèse caractéristique précisément de l'émancipation, vient toujours un moment où s'énonce une réclamation, voire un plaidoyer. Mais j'ouvre une parenthèse tout de suite pour dire que ce plaidoyer, on va voir qu'il ne va pas de soi, que le plaider dans le plaidoyer émancipateur ne va pas de soi. Donc dans la sortie émancipatrice vient toujours un moment, c'est ma thèse, où s'énonce une réclamation, voire un plaidoyer, pour l'inscription à titre de sujet dans un régime légal, ou dans un régime de droit, vient toujours un moment où s'énonce une réclamation pour l'inscription à titre de sujet dans un régime légal de personnes qui ne sont pas, pour commencer, attributaire de ce titre de sujet. Voilà. Donc, en termes plus simples, j'ai, depuis le mois de janvier dernier, défini l'émancipation comme étant un mouvement pour l'inscription à titre de sujet d'une personne qui n'est pas, pour commencer, un sujet de droit ou en droit. Ainsi, un sujet émancipé est-il, à mon sens, un sujet qui n'était pas fondé à se plaindre en droit et qui désormais l'est devenu. Alors je précise, je ne dis pas que le sujet non émancipé, pas encore émancipé, n'était pas fondé à se plaindre du tout. Mais il n'était pas fondé à se plaindre en droit. Il n'avait pas le droit de se plaindre, de porter plainte en droit. Et l'émancipation est une formule juridique, disons, qui lui donne ou reconnaît le droit de porter plainte en droit, de se plaindre. Mais qu'est-ce que se plaindre ? Qu'est-ce que se plaindre ? Alors, petit retour en arrière, pour moi, lecture de Jean-François Lyotard, Le Différent. Pour Jean-François Lyotard, toute plainte suppose un plaignant apte à porter et à plaider le motif de sa plainte dans un langage qui ne peut qu'être partagé avec ceux auprès desquels il se plaint et auprès desquels, pour cette raison qu'il partage avec eux un langage, il peut se plaindre. Pour se plaindre, il faut pouvoir partager un langage avec ceux qui enregistrent la plainte portée. Par définition, le langage dans lequel une plainte peut être portée ne saurait être un idiolecte. Et pour Lyotard, il n'en allait pas de même de ce qu'il appelait un différent. Le différent, c'est ce qui reste en deçà, d'une certaine manière, du langage permettant à la plainte d'être portée. Donc, par définition, le langage dans lequel une plainte est portée ne peut être un idiolecte, et pour Lyotard, il n'en allait pas de même du différent, lequel, à ses yeux, implique un désaccord sans partage, non entendu par conséquent, et je dirais aussi bien en reste du discours de la plainte. Alors Jacques Rancière, comme vous le savez peut-être, a contesté la pertinence de ce concept lyotardien de différent et a proposé, je vais très très vite, en échange pour ainsi dire, la notion de mésentente dans un livre dont je me précise qu'il est pour moi aussi fameux que Le Différent de Lyotard. Donc je mentionne simplement à votre intention l'existence de ce désaccord entre Lyotard et Rancière au sujet de la pertinence de la notion même de différent telle que je viens de la définir, c'est-à-dire telle qu'on la trouve chez Lyotard. Le débat portait, et au fond je crois porte encore, sur le statut du disciple. Pour Rancière, il me semble, je résume certainement, mais tout de même, il me semble que le tort de la notion de différent tel que conçu par Lyotard, c'est d'être lié, sinon à la notion d'un indicible absolu, ça met en colère Rancière, hein, l'idée qu'il y a quelque chose qui serait pas dissible. Voilà. Donc le tort de la notion de différent tel que conçu par Lyotard, c'est d'être lié, sinon, je précise, à l'hypothèse d'un indicible absolu, en tout cas à une certaine extériorité de l'humain au langage, hein, puisque le différent, c'est ce qui ne peut pas être porté dans le langage par définition commun, qui permet qu'une plainte soit à la fois portée et entendue par l'autre. Donc le différent reste en deçà du dire possible de la plainte. Ça, c'est cette idée qui est du disciple en reste, qui serait donc pas dit, non dit, et pas seulement non dit, non disciple. C'est pas du tout l'hypothèse de raisonnement de Jacques Rancière. Donc, ce qui constitue le désaccord entre les deux, c'est l'idée qu'il existe, propre à Lyotard, si vous voulez, qu'il existerait une certaine extériorité de l'humain au langage, idée sur laquelle, pour ce qui me concerne dans les minutes qui viennent, et d'ailleurs dans la suite, je vais plutôt m'appuyer. De cette hypothétique extériorité de l'humain au langage, au moins partielle, qui fait que du différent est possible, au sens de Lyotard, de cette hypothétique extériorité de l'humain au langage, pour ce qui nous concerne ici dans ce séminaire, vous vous en souvenez sans doute, nous avons déjà rencontré un cas lorsque nous avons lu le propos de Michel Guérin. Donc c'était, je crois, lors de la dernière séance. Humain nous a-t-il semblé à ce moment-là, quand nous lisions Michel Guérin la dernière fois, humain est, pour, au moins le texte de Michel Guérin que je vous lisais, humain est l'être qui aura pu et qui peut toujours être transi par une puissance opératoire. Transi, c'est un mot qu'on trouve chez Guérin. L'humain est cet être qui peut être transi par une puissance opératoire susceptible de l'aventurer dans le monde. C'est ça qu'il appelle un geste, Michel Guérin. Cette puissance opératoire susceptible de l'aventurer dans le monde, c'est-à-dire de faire qu'après, il y a une aventure de l'humain qui commence là et qui se poursuit. Il faut voir ensuite comment. Donc l'humain est cet être qui peut être transi par une puissance opératoire susceptible de l'aventurer dans le monde sans qu'il soit en mesure, pour commencer au moins, de l'exprimer par langage. Le geste, c'est quelque chose qui ne commence pas, chez Michel Guérin, avec du langage qui l'exprimerait. Justement, non. Voilà. Donc il me semble, alors je ne sais pas si Michel Guérin serait d'accord, pas trop ce qu'il pense de Lyotard, je dois dire, mais moi, je fais ce rapprochement. C'est-à-dire, en tout cas, je retiens tout particulièrement chez Michel Guérin cette formule, le geste est ce qui transit l'humanité, est ce qui fait qu'elle s'aventure sans exprimer d'avance, en tout cas, ou je précise bien parce qu'en fait ça va être mon sujet de ce soir, pour commencer, voilà. Sans que ça s'exprime par langage, pour commencer. Il y a geste précisément en tant qu'un commencement est opéré sans avoir été statué dans un énoncé. Tout geste est acté, pour reprendre un mot auquel tient Michel Guérin, tout geste est acté avant d'être représenté et même saisi dans ses enjeux. Alors, question, je dirais philosophique par excellence, dans un langage un peu plus technique, je dirais transcendantal, au sens de Kant, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux conditions de possibilité. Comment comprendre la possibilité d'un tel fait, de cette possibilité d'être transi par une opération qui n'est pas représentée ni saisie dans ses enjeux au moment même où elle commence? Alors, en me référant à un registre qui n'est pas celui de la technique, dont Michel Guérin veut, lui, de son côté, dans la troisième main, tout particulièrement penser la possibilité, je pourrais reprendre ici, pour commencer à traiter de cette question, comment comprendre la possibilité de cette aventure, de cet être transi par une aventure opératoire qui n'est pas exprimée, qui n'est pas expression d'abord. Je vous propose de reprendre certaines observations. Alors c'est un passage, je tente quelque chose. Je pourrais reprendre ici certaines observations faites par Fernand Deligny au sujet des mouvements, du rapport à l'espace en général, des personnes apparemment absentes au langage qu'il accueillait dans les Cévennes. Ces personnes étaient porteuses de gestes non phrasés. C'était justement le problème, c'est qu'elles étaient apparemment extérieures au langage, mais pas forcément à toute opération gestuelle au sens même, je dirais, banal du mot. Elles pouvaient s'agiter de gestes divers. Ces personnes accueillies par Fernand Deligny dans les Cévennes, notamment dans les Cévennes, étaient porteuses de gestes non phrasés. Et je le dirais, pour les besoins de ma cause ce soir, dans le raisonnement que j'essaye de vous proposer, je le dirais volontiers en différent avec le monde des humains socialisés. Les personnes accueillies par Deligny étaient en différent avec le monde des humains socialisés, et ça se traduisait par le fait qu'elles ne phrasaient pas les gestes qu'elles opéraient. Alors, sauf à considérer ces personnes comme inhumaines au sens ordinaire du mot, ce qui a été quand même la tentation de toute une psychiatrie pendant un temps, pas chez Deligny bien sûr, mais sauf à considérer ces personnes comme inhumaines au sens ordinaire du mot, je devrais penser, me semble-t-il, qu'elles sont, au fond, ou je vous propose de penser, qu'elles sont, au fond, la preuve vivante du fait que l'humanité est en effet capable de se situer et de s'effectuer en des gestes qui n'ont pas l'allure d'une expression, qui ne semblent pas être des gestes expressifs, mais qui semblent, par exemple, être incoordonnés, vous voyez, des choses comme ça. Évidemment, dans la moindre expression ou dans la moindre phrase, il y a de la coordination. Il y a la coordination des mots, etc. Les gestes des personnes accueillies par Deligny étaient des gestes, on peut dire, incohérents. Alors, sauf à considérer ces personnes comme inhumaines, on va faire le contraire. Si on les considère comme humaines, alors elles sont la preuve vivante qu'il est possible à des humains de se situer et de s'effectuer, d'effectuer leur humanité au jour le jour, en des gestes qui n'ont pas l'allure d'une expression. Or, cette situation et cette effectuation de gestes qui n'ont pas l'allure d'une expression et qui sont la production quotidienne des personnes en question, cette situation et cette effectuation de gestes sont aussi bien inhumaines dans l'humain, au sens spécifique de Lyotard, cette fois, c'est-à-dire qu'elles ont, cette situation, cette effectuation de gestes des personnes qu'accueillait Deligny dans les Cévennes, elles ont lieu au cœur, elles sont in, humaines, dans le in, latin, au plus profond, dans l'humain, elles sont au cœur ordinairement enfoui de l'humain, ou elles sont au cœur de l'humain que précisément la société enfouit. Pas enfoui, mais au fond. Hein, voilà. Donc elles sont, je ne sais pas comment dire ça, des indices de ce qui est au cœur, au plus profond de l'humain, en deçà de la socialisation, et par conséquent du langage, de l'expression, etc., etc. Elles ont pour instance, cette situation et cette effectuation de gestes, elles ont pour instance l'infance, c'est-à-dire, comme vous savez, je le répète trop souvent, le non-parlant. Infance veut dire qui n'est pas dans la parole. Ou l'enfance qui n'est pas dans la parole. Le lieu, je suis en train de vous dire au fond, c'est pas sur mes notes, peut-être que je ne devrais pas le dire tout à fait comme ça, mais je suis en train de vous dire au fond que le lieu où le geste commence, c'est un lieu qui ne peut être qu'infantile, hein, en deçà de toute... de toute parole, dans le pas encore parlé. Voilà. Nous avons probablement tort de penser que cette infantilité inhumaine, au sens de Lyotard, nous avons probablement tort de penser que cette infantilité puisse jamais être relevée, c'est-à-dire subsumée, c'est-à-dire qu'on s'en sorte, quoi. Totalement. Ou mieux, nous avons probablement tort de penser qu'elle peut être dialectisée, cette situation d'infantilité. Nous avons probablement tort de penser qu'elle peut être dialectisée au sens où ce mot de dialectique implique une sorte de passage au logos, au discours, à la ratio, à la raison. Ratio est un mot latin qui a traduit logos. Hein. La raison, le... Nous avons probablement tort de penser que cette situation profondément infantile, cette instance de l'infance, peut être dialectisée au sens où ce mot de dialectique implique une sorte de passage au logos, à la raison, à la ratio, à la discursivité, dès lors considérée non pas comme la source, mais comme la fin essentielle de toute opération humaine. Voilà. Peut-être je pourrais simplifier, c'est un passage pour moi important dans le raisonnement que j'essayais de construire ce soir, au fond de dire la source pour nous, c'est l'infance, donc c'est ce que Lyotard a parlé, ce qui reste en différent, le non-parlé, etc. Et ce qui nous intéresse en tant qu'être socialisé, donc plus infantile, etc., dans le langage, ce ne sont pas les sources, mais les fins. C'est pour ça qu'on veut dialectiser, c'est-à-dire qu'il faut passer à la fin, il faut aller vers la fin, c'est ça qui compte, c'est ça qui compterait. Donc, au fond, nous qui ne sommes pas, nous qui sommes des humains ordinaires, pour nous, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les sources de l'humanité, mais les fins. Les sources de nos existences, mais les fins de nos existences, les finalités, je veux dire. Voilà. À l'inverse de cette idée que je viens d'essayer de vous dire, selon laquelle le discours serait la fin du geste, à la fois ce qui finalise le geste et ce qui le termine, à l'inverse, j'imagine ici, de fait, le geste comme source sans fin de l'humanité, ou du moins, comme source qui n'a pas l'explication de la fin. Elle ne s'explique pas, cette source, par la fin, et elle n'a pas le finir pour justification. La source, mettons, le geste en tant que source, n'a pas l'explication de sa fin, n'a pas l'explication de la fin, ne s'explique pas par la fin, et n'a pas le finir pour justification. Un geste a son commencement pour justification et pas son finir. C'est ça que, j'essaye de dire et de faire un peu réfléchir ce soir. Bref, l'infantilité du geste, à mon sens, mettez tout sur mon dos. Hein. Voilà. Parce que je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une argumentation dans ce que je dis là. J'essaye de faire penser quelque chose. Hein. Bon. Bref, l'infantilité du geste ne cesse de tracer, me semble-t-il, nos corps d'humains, voire d'y faire source encore et encore, à moins que nous ne soyons plus, en tant qu'adultes, capables du moindre geste. Mais si nous sommes encore capables du moindre geste, je propose de penser que c'est parce que l'infantilité nous travaille. Elle ne cesse de tracer nos corps d'humains, voire d'y faire source encore et encore, quand bien même les adultes que nous sommes aussi se font forts de ne pas faire droit à cette infantilité. Pour moi, un adulte, je n'arrive pas à définir le mot autrement que comme ça. L'adulte est celui qui se fait fort de n'être plus un enfant. Et de ne pas se comporter comme ça dans les commencements même de l'humanité. Voilà. Par exemple, il ne sera pas naïf, l'adulte. Surtout pas. Voilà. Donc je pense que l'infantilité, je vous propose de penser que l'infantilité du geste ne cesse de tracer nos corps d'humains, voire d'y faire source encore et encore, quand bien même les adultes que nous sommes aussi se font fort de n'y pas faire droit. Qu'il en soit ainsi est proprement dramatique. Vous savez, drama en grec, c'est l'action, ça nous fait bouger, quoi. Qu'il en soit ainsi est proprement dramatique, et c'est ce drame même qui, ne cessant d'enlever l'humanité à une enfance qui ne cesse de la ressourcer, c'est ce drame même qui l'a fait exister, l'humanité, au sens que j'essayais de dire l'année dernière, pour existence, ex sistere, sortir de sa situation, etc. Hein, c'est, l'existence est dramatique, au sens précis. Au sens précis, enfin bon. L'existence est dramatique, c'est ce drame-là ne cesse de nous enlever à une enfance, on ne cesse de devenir grand, de devenir adulte, de ne pas être naïf, etc. Ah, oh, cette fois-ci, on ne m'y reprendra plus, etc. Hein. Donc nous ne cessons de nous enlever à une naïveté qui, en fait, ne cesse de nous ressourcer. Je propose juste, d'une certaine manière, en réfléchissant sur l'émancipation, de faire, alors droit, est-ce que c'est le bon mot, en tout cas, de faire attention à ce caractère sourçant et interminable sourçant de l'enfance en nous. Voilà. Quand j'aurai perdu tout rapport à l'enfance, peut-être que je n'existerai plus. Pour illustrer l'idée que le geste est un élan qui anticipe sur son expression et sa représentation. Alors je prends le mot élan, il me va bien, mais vous savez que je l'emprunte à Michel Guérin. Hein. Pour illustrer l'idée que le geste est un élan qui anticipe sur son expression et sa représentation, je vous propose maintenant de prendre deux autres cas dont la puissance dramatique pourra vous paraître moindre que celle que je viens d'évoquer pour mettre un peu l'ambiance. Alors le premier cas d'anticipation sur une expression et une représentation qu'on pourrait appeler un geste, au sens donc conceptuel, c'est celui de l'inventeur. Alors, exemple, Niepce, l'inventeur, alors, qu'on dit être l'inventeur de la photographie. Est-ce que Niepce s'est dit, au moment où il procédait à l'invention même, est-ce qu'il s'est dit ce qu'il était en train d'inventer ? Est-ce qu'il existe un inventeur qui se dise au moment où il invente ce qu'il est en train d'inventer ? Est-ce que Niepce, par exemple, avait par-devers lui la formule de ce qu'il mettait au monde ? Non, il ne l'avait pas. Il commençait à avoir affaire à quelque chose d'inédit, donc au sens précis du mot, inédit veut dire pas dit. Il commençait à avoir affaire à quelque chose d'inédit, pourquoi manquait le mot même de photographie, qui est venu bien après, je pense que Cédric m'accordera ça. Non ? Donc, il avait affaire à quelque chose d'inédit, par pourquoi manquait même le mot de photographie, et qui, une fois mis sous les yeux du public, n'allait pendant quelque temps être désigné que par des périphrases. Voilà. Alors, je propose de généraliser. Ce n'est pas qu'aucune phrase n'occupe jamais l'esprit d'un inventeur, ni n'occupe jamais le temps des inventions. Bien sûr, sa phrase dans la tête de l'inventeur est autour de ceux qui sont du moment de l'invention. Sa phrase, forcément, les humains socialisés phrasent sans cesse. Donc ce n'est pas qu'aucune phrase n'occupe jamais l'esprit de l'inventeur ni le temps des inventions, c'est qu'aucune de ces phrases n'est immédiatement ni d'abord ajustée à ce qui advient. Et c'est que cela même, ce qui advient, n'advient qu'en dépit des phrasés disponibles. Ce qui n'advient véritablement qu'en dépit des phrasés disponibles. Je ne pense pas être très très loin de Lyotard en disant une chose pareille. Bon, vous avez compris, j'essaye de nous focaliser sur une situation qu'on pourra appeler geste, et où je placerai le commencement de l'émancipation. J'essaye d'attirer notre attention sur le caractère sans phrase de ce moment de commencement. Le second cas, moins dramatique que le premier que je prenais, sur lequel je vous propose de réfléchir quelques minutes, sera celui d'une sorte d'acte historique qu'il faut bien que nous acceptions de considérer, étant donné ce qui a pu en être dit, comme un cas d'émancipation. Je pense, il faut bien que j'affronte cette difficulté, c'est au mouvement des enclosures, mouvement dit des enclosures, que je suis en train de penser. Mouvement parfois décrit, comme vous le savez sans doute, même volontiers décrit, avec le lexique de l'émancipation, puisque avec lui, comme on le dit parfois, voire souvent, c'est, dit-on, l'économie capitaliste qui aurait commencé à s'émanciper des liens de la féodalité. Alors, est-ce que ceux qui enclosaient, qui mettaient des clôtures à leurs champs, se sont dit qu'ils étaient en train d'émanciper ce qui allait être le capitalisme des liens dans lesquels se trouvait serrée, d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, l'économie féodale. Si la bataille juridique qui a suivi le mouvement des enclosures, il y a une bataille juridique, je sais ça, je vous renvoie au livre que j'ai déjà cité ici de Katharina Pistor, hein, sur le droit. Elle raconte, je crois, très bien cette affaire. La bataille juridique qui a suivi le commencement du mouvement des enclosures, c'est-à-dire les premiers qui ont fait ça, se sont fait attaquer en justice par ceux qui étaient, qui allaient devenir les victimes, mais qui, sur le champ, étaient en bagarre et portaient plainte. Il y a une bataille juridique qui s'est suivie et qui s'est soldée, en effet, au bénéfice des initiateurs du mouvement des enclosures. C'est-à-dire que finalement, ils ont gagné la partie. À la fin, ils ont gagné. Si elle s'est soldée de cette manière-là, la bataille juridique qui a suivi l'initiative des encloseurs, c'est en raison d'un jeu de plaintes et de contre-plaintes qui a finalement fait revenir contre le droit féodal des communs une plus ancienne formule juridique, d'abord formée à l'époque romaine, hein, et qui a, pour dire, restauré le droit de propriété à la romaine avec usus fructus abusus, surtout abusus. Mais justement, il s'agit là d'une suite consécutive à une bataille engagée après le premier geste, et bataille engagée non pas par les initiateurs de ce geste, mais par les opposants à ce geste. Il me semble que ça montre que la représentation de la fin historique qui allait être celle du mouvement en question, le mouvement des enclosures, il me semble que la bataille juridique, etc., les conditions même dans lesquelles cette bataille s'est engagée montrent que la représentation de la fin historique qui allait être celle du mouvement n'était pas décidée dans son commencement. C'est-à-dire, s'il y a effectivement un lien entre le mouvement des enclosures et l'essor ou l'émancipation du capitalisme, cet essor, cette émancipation n'a pas été décidé par les initiateurs pourtant historiques du mouvement, hein, qui ont fait le... C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, de façon plus simple, je vais revenir sur ces apparents paradoxes. La fin n'est pas dans le commencement. Voilà. La fin n'est pas dans le commencement. Elle n'est pas déjà là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui résiste à la dialectique, au sens que je vous disais à peu près tout à l'heure. Si on peut parler, dans le cas du mouvement des enclosures, d'une émancipation, en l'occurrence donc celle du capitalisme, alors il faut dire, en suivant l'histoire du mouvement des enclosures, alors il faut dire que l'émancipation ne sait pas ce qu'elle engage. Elle ne connaît pas son sens, parce que ce sens est final et qu'il dépend d'une lutte a priori indécise. Ça n'est pas décidé au commencement. Alors, maintenant que j'ai pris cet exemple, ou ce deuxième cas, est-ce que je peux poser une question plus générale? Est-ce qu'on peut jamais être présent au sens de ce qu'on fait? Je vous repose la question. Est-ce qu'on peut jamais être... Il y a un jeu de mots, hein, en fait. C'est assez simple, c'est logique, quoi. Est-ce qu'on peut jamais être présent au sens de ce qu'on fait? Le sens, c'est ce qui se manifeste à la fin. Le sens d'une phrase, c'est pas dans le premier mot que vous l'avez. C'est pas dans le mot qui lance la phrase que vous l'avez. Le sens, il faut que la phrase soit dite jusqu'au bout pour que vous ayez le sens de la phrase. C'est juste ça que je dis. Le sens n'est pas dans le commencement. Le sens n'est pas dans le présent du présent. On ne peut pas être présent au sens de ce qu'on fait. Pas plus qu'on peut être présent sur le champ, tout de suite, à l'orée, au sens de ce qu'on va dire. Le sens n'est-il pas par définition ce qui n'est pas encore présent? Pour qu'il le soit, il faudrait pouvoir donner à la notion de cause finale. Alors j'ai mis entre parenthèses, je voulais vérifier les textes, belle mais problématique invention d'Aristote, la cause finale. la notion de cause finale. Pour qu'on puisse dire que, comment dire, le sens est présent. Ben, je pense que le sens n'est jamais présent. C'est toujours... Ça va venir, le sens final. Ça va venir. Bon. Pour que le sens soit pas dans la fin, il faudrait pouvoir donner à la notion de cause finale un statut phénoménologique, c'est-à-dire qu'on puisse en faire l'expérience ou l'épreuve de la cause finale. Mais en fait, ce n'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas être à la fois au moment où la cause entame le mouvement qu'elle entame et à la fin du mouvement qu'elle entame. Il y a quelque chose de la temporalité qui résiste. Vous voyez ? Bon. Donc on ne peut pas... Il n'y a pas de... La cause finale... Enfin, il me semble, hein, j'espère que... Il y a des philosophes dans l'assistance pour confirmer ce que je dis, mais je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de statut phénoménologique possible de la notion de cause finale, même si je vais y revenir. Cette notion est inévitable pour quiconque veut construire le moindre récit historique. Voilà. Donc il y a une espèce de désaccord entre le dire l'histoire, le sens de l'histoire, et l'épreuve même de l'historicité. Donc je dis ça autrement, la notion de cause finale n'a pas de statut phénoménologique. Justement, pareille cause, la cause finale, par définition, ne se présente pas au niveau ou au moment de l'expérience. Si la notion de cause finale, c'est-à-dire finalement il y a des causes et que tout ça fait sens... Si la notion de cause finale paraît consistante, c'est toujours en raison d'une reconstitution de l'expérience. Ce n'est pas dans l'expérience même de l'historicité des choses qu'on fait, qu'on peut prendre acte de quelque chose qu'on appellerait la cause finale ou la logique finale, la logique finaliste, finalisée de ce qui est en train d'advenir. Si la notion est consistante, c'est en raison d'une reconstitution de l'expérience dans un récit que je vais appeler poético-historique, pour une raison que vous entendrez dans quelques minutes si vous avez un peu de patience. La notion de cause finale tire sa consistance d'une reconstitution de l'expérience dans un récit poético-historique, qui ne peut lui-même, être formulé qu'après coup. En réalité, donc, la fin n'est jamais présente au commencement tel que vécu. Bon, je peux traduire tout simplement tout ce que j'essaie de vous dire en disant, moi, finalement, ce que je pense, c'est que si l'émancipation existe, elle ne sait jamais sa raison. Elle n'a pas sa fin présente au commencement dans le vécu. Qui s'émancipe, qui vit une émancipation, n'a pas dans l'esprit la fin de ce qu'il est en train de vivre. Et cette fin peut être, on ne sait pas laquelle. Ce qui convient au désir de l'intéressé ou pas. La fin ne peut être assignée au commencement qu'a posteriori, quand on est loin du commencement. Alors, étant donné tous ces cas, alors j'ai au fond trois, hein, les enfants ou les grands-enfants accueillis par Deligny dans les Cévennes, le cas de l'inventeur, et puis les méditations auxquelles me conduisent les vocations du mouvement des enclosures comme moment d'une éventuelle émancipation du capitalisme par rapport à la société féodale. Étant donné tous ces cas, qui donc n'ont pas la même prégnance ni la même qualité morale pour les mœurs, dont les effets, autrement dit, sur les mœurs ne sont pas de même ordre, de sorte que nous pouvons penser que toutes les émancipations ne sont finalement pas équivalentes. L'émancipation de la photographie, n'a pas les mêmes conséquences morales sur les mœurs que l'émancipation du capitalisme ou que l'émancipation des gestes des personnes accueillies par, par Deligny dans les Cévennes, etc. etc. Il y a peut-être, c'est peut-être toujours de l'émancipation qu'il s'agit, mais avec des... des implications dans les mœurs et la morale qui ne sont pas équivalentes. Bon, étant donné tout ça, examinons désormais, si vous voulez bien, ce qu'il en est en général, philosophiquement, du commencement, de tout commencement. Pour cela, je vous propose de nous reporter aux propos qu'Anna Arendt tient sur ce sujet. Ce qu'on peut comprendre du raisonnement qui est le sien sur la question, c'est que la mise en récit, le faire histoire ou faire cas historique de ce qui, à un moment donné, a commencé, donc ce qu'on peut comprendre du raisonnement d'Anna Arendt sur la question du commencement, c'est que la mise en récit de ce qui, à un moment donné, a commencé, ne porte pas sur le commencement même, mais, dit-elle, sur l'origine. Le récit... Peut-être la différence pour aller très très vite, alors c'est pas... mon souvenir n'est pas qu'elle dit les choses exactement comme ça, mais... le commencement, ça vous conduit vers l'après. Et si vous pensez en termes d'origine, vous allez chercher vers l'avant. Hein. Et qu'en fait, le récit historique, pour Anna Arendt, rate toujours le commencement, parce qu'en fait, il cherche l'origine de ce dont il parle. Le récit faisant cela tend inévitablement à dissoudre l'événementialité du commencement en le rendant logique, en le liant à un ordre syntaxique et à une composition littéraire. Je veux dire, en parlant de composition littéraire, quelque chose qui est dans l'ordre des lettres ABCD, etc., hein, et pas dans celui des faits. Le récit, si je suis un certain nombre de textes d'Anna Arendt que j'ai à l'esprit, tendrait inévitablement à dissoudre l'événementialité du commencement en le rendant logique, en le liant à un ordre syntaxique, à une composition littéraire, et en faisant de la sorte la part belle à l'esprit de causalité. C'est le rapport à la causalité qui constitue l'origine. Il faut bien qu'un commencement s'explique par quelque chose qui a commencé avant le commencement. C'est ça l'origine. Mais bon, on n'en finit pas, c'est le cas de le dire. Hein. On remonte. C'est le rapport à la causalité qui constitue l'origine et qui fait rater le commencement, dans une certaine mesure. Si, et donc j'ajoute que si un événement a bien des conditions de possibilité, s'il n'est pas possible en n'importe quelle circonstance tel qu'il est ou tel qu'il sera, néanmoins, j'insiste, son sens n'est pas a priori enchaîné à des raisons qui lui seraient antérieures. Un événement n'est pas a priori enchaîné à des raisons qui lui seraient antérieures, même s'il a des conditions de possibilité. Il ne faut pas confondre conditions de possibilité et causes. Les causes impliquent, les relations de cause à effet impliquent des enchaînements auxquels on ne peut pas échapper. L'effet ne peut pas échapper à sa cause. Conditions de possibilité, c'est si vous avez les conditions de possibilité d'un événement, vous n'avez pas nécessairement l'événement. Il se peut que dans ces conditions-là, il advienne, mais aussi qu'il n'advienne pas. En revanche, si vous avez les causes, il ne peut pas ne pas advenir. Donc la tendance du récit historique, c'est de rater le commencement au bénéfice de l'origine, c'est de rendre raison, de vouloir rendre raison des commencements, et donc par conséquent, de les inscrire, de les enchaîner dans une série de liens, de les enchaîner dans des liens de cause à effet, alors que peut-être justement ce qui caractérise l'événementialité de l'événement, c'est que c'est un déchaînement. Voilà. Il y a l'idée, au fond, dans le discours historien ou historique, qu'il y a toujours une raison qui serait antérieure et qui, comme telle, serait le lieu d'une explication possible, a priori, de l'événement. Tout événement apparaît comme un cas que l'on peut penser comme objectivement, mais non subjectivement, plausible. Voilà. S'il arrive quelque chose, personne ne peut le prévoir au moment de l'arrivée. Le récit qu'on en fait après, c'est une autre affaire. Il n'y a pas, me semble-t-il, après toutes ces lectures ou références implicites, il n'y a pas de commencement auquel un sujet puisse s'attendre dans le cadre des schèmes et catégories dont il dispose en tant que tel, en tant que sujet. Quand je commence quelque chose, en fait, je ne s'attends pas à ce qui commence en lui. Il n'y a pas de commencement auquel un sujet puisse s'attendre dans le cadre des schèmes et catégories dont il dispose en tant que tel. Et c'est pourquoi il y a, moi je pense, c'est ce que pensait Hannah Arendt, l'événement est possible. Un événement qui a des conditions de possibilité, mais encore une fois, pas de cause. Alors, j'essayerai de tirer, lors de la prochaine séance, les conséquences de ce propos, et donc je vais vous laisser sur ce point dans un suspense quasi intolérable. Voilà. Mais je fais ça parce qu'il faut bien que je coupe la séance à un moment donné, on va forcément s'épuiser. Hein. Et je voudrais greffer sur ce que je viens de dire. Alors je vais tirer les conséquences du fait que donc le commencement est insaisissable. Hein, et que même les récits quant au commencement manquent le commencement même, dans la mesure où, d'une certaine manière, où, en tout cas, ils auraient la prétention de le situer dans son commencement même, hein, un moment précis, dans un enchaînement de causes et d'effets, etc. Bon. Donc je tirerai les conséquences de ce propos la prochaine fois, mais je voudrais faire donc deux remarques pour terminer la séance de ce soir. Alors je veux dire, rassurez-vous, c'est pas tout de suite fini, hein. J'ai quand même deux remarques un peu... Faut le temps, quoi. Bon. Non, ça va quand même. Oui. Bon. Je crois avoir lâché au passage l'expression de récit poético-historique. Oui, vous avez entendu. Ben, ça tombe bien parce que je voudrais faire une remarque là-dessus. Hein? Donc, c'est ma première remarque. Je pense que les deux remarques sont liées. Je pense que je ne pouvais pas les faire autrement que dans cet ordre. À vous de juger, vous me direz tout à l'heure. Poétique des savoirs, c'est une formule proposée par Jacques Rancière et qui est susceptible dans son esprit de se substituer à la notion plus traditionnelle qu'il avait héritée de sa jeunesse bachelardienne et althusserienne de coupure épistémologique. Ça vous dit quelque chose, la coupure épistémologique ? Et donc, quand il écrit « Les noms de l'histoire » en 1992, il propose cette expression « plutôt que de coupure épistémologique ». Alors, la coupure épistémologique, pour le dire vite, c'est une notion qu'on trouve, à ma connaissance, pour commencer chez Bachelard, et qui consiste à dire qu'à un moment donné, quand un discours devient scientifique, il ne le fait qu'en coupant avec ses propres conditions de profération, avec les conditions de profération antérieures, hein, en retournant, donc par exemple le principe d'inertie de Galilée coupe par le fait qu'il pose a priori que la position du moindre corps c'est d'être mobile, il coupe a priori avec l'affirmation aristotélicienne au contraire qu'il y a un lieu pour chaque corps et que donc le mouvement n'est pas la position naturelle des corps. Donc il y a une coupure épistémologique, on pourrait dire la même chose avec la chimie. La chimie commence avec Lavoisier, la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » qui est contre-intuitive. puisque quand vous faites brûler un morceau de bois, sa masse diminue, donc le feu est la disparition d'une partie de la matière. Et coupure épistémologique, Lavoisier constitue la chimie en science en coupant avec le discours antérieur. Bon, voilà, pour aller vite et caractériser cette... Alors Rancière dit, en 92, à un moment où il va s'intéresser à la question de savoir si l'histoire est une science, je préfère l'expression de poétique des savoirs. Je cite, c'est une note de bas de page sur mes notes, mais peut-être ça vaut le coup quand même que je vous donne le passage de Rancière. Le récit fondateur, où Rancière dit, en l'occurrence à propos de Michelet, son intention de montrer que les fantasmes et les effets de style de Michelet définissent bien les conditions du parler scientifique des annales. Alors les annales, c'était l'école des annales, l'école d'historiens des annales, qui est la Bible, si j'ose dire, de référence des historiens à un moment où ils disent « Non, nous, on n'est pas une discipline littéraire, on est une discipline scientifique. Hein, » donc c'est la coupure épistémologique aurait été prononcée dans la façon d'écrire l'histoire et de la penser par l'école dite des annales, l'école historique française dite des annales. Alors, ce que fait Rancière, c'est de montrer que le récit fondateur à propos de Michelet, qu'on trouve dans les textes des historiens des annales, montre que les fantasmes et les effets de style de Michelet, les effets de style de Michelet définissent bien les conditions du parler scientifique des annales. Ils sont les opérateurs, dit Rancière, de ce qu'on appelait naguère une coupure épistémologique, de ce que je préfère appeler une révolution des structures poétiques du savoir. Voilà. Au passage, une note précise que toute réflexion sur la poétique des savoirs, quelle que soit la différence des perspectives, est redevable à la sémiologie dont Roland Barthes s'est acquitté de manière magistrale dans son Michelet par lui-même de 1954. C'est une note de Rancière lui-même. Hein, donc il renvoie finalement la notion de poétique de savoir qu'il substitue, au moins dans le cas de l'histoire, à celle de coupure épistémologique. Il renvoie ça, il dit qu'on est redevable à l'analyse faite par Barthes dans son Michelet en 1954. Donc il y a des effets de style, vous avez entendu ça, hein, poétique des savoirs. Donc poétique des savoirs, c'est la formule que propose Rancière pour substituer à la notion plus traditionnelle de coupure épistémologique. Elle désigne cette formule, je cite encore Rancière, « l'étude de l'ensemble des procédures littéraires par lesquelles un discours se soustrait à la littérature. » Ok. Bon, il faut. Il y a un petit problème de récupération d'écran dans la salle où nous travaillons, et donc il faut qu'on s'interrompe quelques minutes. La formule de poétique des savoirs désigne, je cite Rancière, l'étude de l'ensemble des procédures littéraires par lesquelles un discours se soustrait à la littérature, se donne un statut de science et le signifie. Il veut dire par poétique des savoirs, il essaye de créer, si vous voulez, cette espèce de discipline épistémologique, d'une certaine manière, enfin, sauf que non, c'est poétique. L'étude de l'ensemble des procédures littéraires par lesquelles un discours se soustrait à la littérature se donne un statut de science et le signifie. Elle s'intéresse, cette formule, c'est toujours Rancière qui parle, Elle s'intéresse aux règles selon lesquelles un savoir s'écrit et se lit, se constitue comme un genre de discours spécifique. Et, toujours formule de Rancière, elle cherche à définir le mode de vérité auquel il se voue, le récit en question, non à lui donner des normes, à valider ou invalider sa prétention scientifique. Alors, il me semble que cette formule poétique du savoir, telle que définie, comme je viens de le dire, par Rancière, peut ou pourrait concerner en général tout énonciateur cherchant à faire valider au titre de science telle ou telle proposition qui ne bénéficie pas encore de ce titre. Je veux dire par là que, enfin moi ça m'intéresse beaucoup cette notion de poétique des savoirs, sauf que Rancière la formule dans le cas de l'histoire, de la prétention scientifique de l'histoire, à un moment donné de l'histoire à devenir scientifique, et pour ça à couper avec des procédés, croit-elle, avec des procédés littéraires, en adoptant en fait d'autres, par exemple ceux de Michelet, hein, malgré tout. Donc il y a l'idée qu'il y aurait toujours des procédures qui relèvent d'une poétique dans toute prétention scientifique. Alors Rancière ne va pas jusqu'à généraliser, je propose de le faire, moi qui ai, depuis, quand Rancière écrit ça, il ne peut pas avoir lu le livre de Latour, L'espoir de Pandore, qui sera publié après. Mais moi qui ai lu l'analyse que fait Latour, de toute la rhétorique qu'il a fallu dépenser à Pasteur pour faire admettre ses thèses, on peut en effet se dire qu'il est pertinent de considérer que dans les sciences, il y a de la poétique des savoirs. C'est-à-dire qu'il y a des procédures rhétoriques dans toute science, en tout cas dans l'histoire. Rancière ne va pas tout à fait jusqu'à cette généralisation à laquelle je vous suggère quand même de penser. Sans doute, écrit-il, la poétique du savoir concerne-t-elle tout particulièrement ces sciences dites humaines ou sociales ? La poétique des savoirs, sans doute, concerne-t-elle tout particulièrement ces sciences dites humaines ou sociales qui, depuis deux siècles, tentent avec des fortunes diverses de gagner leur place dans le concert des vraies sciences, d'écarter le soupçon interminable d'appartenir encore aux œuvres de la littérature et de la politique, voire des deux à la fois. Bon. Donc la thèse de Rancière, c'est de dire que ces sciences humaines n'échappent pas à la poétique, quelles que soient leurs prétentions à le faire. Et que pour le montrer, il le fait dans les noms de l'histoire, il n'y a qu'à lire. Et il finit par débusquer chez le plus scientifique des historiens, une formule parfaitement littéraire, hein, que n'auraient pas désavoué Michelet et les écrivains romantiques du XIXe siècle. Et donc vous entendez, sans doute, cette affaire concerne-t-elle tout particulièrement ces sciences, donc pas seulement l'histoire, dites humaines ou sociales, qui depuis deux siècles tentent, avec des fortunes diverses, de gagner leur place dans le concert des vraies sciences, d'écarter le soupçon interminable d'appartenir encore aux œuvres de la littérature ou de la politique, voire des deux à la fois. Fin de citation. Alors le mot de poétique choisi par Rancière, poétique des savoirs, renvoie évidemment, ultimement, à Aristote, chez qui il désigne un travail spécifique de représentation d'événements, hein, d'imitation d'événements, de représentation d'événements. C'est ça la poétique chez Aristote, c'est un travail spécifique dans le langage pour représenter des événements dont autrement, en l'absence de cette poétique, la logique destinale ne paraît pas. Ce qui définit le travail spécifique de la poétique chez Aristote, c'est l'écriture d'un texte qui fait paraître, donc je vous le dis comme ça, comme je peux, la logique destinale d'une série d'événements en les représentant, fait apparaître la logique destinale d'une série d'événements qui autrement est vécue comme non logique, non destinale. C'est pas Le destin, ça veut dire les choses ne peuvent pas ne pas arriver que, autrement qu'elles arrivent. Si la logique destinale, c'est-à-dire l'écriture poétique, permet à des faits historiques d'être enchaînés les uns aux autres, si la logique destinale, l'écriture de la poétique compose, pose ensemble, si elle implique les faits historiques dans une syntaxe, alors syntaxe c'est le mot grec pour dire composition, syntaxis, une syntaxe, mais syntaxe c'est évidemment un mot de grammaire aussi, hein. La syntaxe c'est ce qui lie, ce qui fait le lien entre les mots dans une phrase. Si la logique destinale donc permet à des faits historiques d'être enchaînés les uns aux autres, si elle les compose, ces faits, si elle les implique dans une syntaxe, elle ôte aussi bien à chacun, du même coup, sa singularité événementielle. Donc il n'y a peut-être pas d'explication logique en histoire qui n'ôte, je ne peux pas vous le dire autrement, à l'événement dont justement il s'agit d'expliquer la raison, son fait même. L'événement disparaît dans le récit qui est censé en rendre raison. En d'autres termes, la logique destinale, l'écriture de la poétique, dissout le brut de chaque événement, c'est-à-dire son événementialité même. Donc j'appelle le brut de l'événement, c'est l'événementialité même de l'événement, le fait que, disons, je ne sais pas comment vous dire ça... Il surgit, il advient, voilà, pour reprendre un mot de tout à l'heure. Il advient, sans qu'il y ait a priori de raison. Voilà, si c'est un événement vraiment. Aristote dit que l'affaire de la poétique, et je pense que Rancière n'est pas loin de dire la même chose quand il formule sa notion de poétique des savoirs, que l'affaire de la poétique, c'est la production d'un mutos, d'un mythe. Voilà. Je suis en train de vous demander, enfin, c'est le genre de fausse question, ne pensez-vous pas que, donc il faut dire oui, hein, ne pensez-vous pas que, au fond, toute histoire mythifie ce dont elle essaye de parler de façon scientifique, c'est-à-dire en principe non mythifiée ou non mythifiante. En tout cas, chez Aristote, c'est clair que le mutos, c'est bien l'affaire de la poétique. C'est bien ce qui permet d'y comprendre quelque chose. Voilà. Et ça remplace ce qu'il peut appeler, avec sa langue, l'historia, stricto sensu, qui est une sorte de rapport désordonné des choses ou des faits comme ils ont eu lieu. C'est-à-dire, moi je lis la poétique d'Aristote comme ça, en tout cas. Je pense, bon, et ça serait tout un travail, évidemment, il faut le montrer. Mais je trouve que ce n'est pas très difficile, c'est juste un peu de patience. Mais il me semble qu'il y a une sorte de scène qui se lit en filigrane dans la poétique d'Aristote, où le poète se promène dans l'oïkos, dit le texte, à cet endroit-là, l'oïkos, c'est-à-dire le sein de la ville, le sein du monde urbain. Et là, il entend, on dit des choses, on raconte des choses, on dit « Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Et c'est un espèce de désordre d'événementiel, il n'y a pas de logique dans tout ça. Voilà. Et il rentre chez lui et il compose un mutos qui va donner du lien à ce qui semble désordonné dans la mémoire purement historienne, historia et non pas mutos. Donc je pense que c'est la question... Enfin, je pense extrapoler peut-être, mais pas tant que ça, le propos de Rancière en disant, mais est-ce que Rancière, en tout cas, tel que je le comprends dans les noms de l'histoire, me glisse dans la tête cette idée qu'au fond, il n'y a d'histoire même depuis les historiens des annales, donc les prétentions scientifiques, etc., il n'y a d'histoire que mythifiant son sujet. Voilà. Donc on raconte jamais les événements comme ils ont eu lieu. Alors, seconde remarque, y a-t-il une sorte de texte, maintenant que j'ai dit ça, on est bien avancé, hein, est-ce qu'il y a une sorte de texte qui soit une histoire ou un récit, notamment une histoire ou un récit de l'émancipation, puisque c'est ça que nous cherchons, c'est-à-dire, autrement dit, ma question c'est ça, est-ce que nous avons, pour penser l'émancipation, d'autres récits que des mythifiants ? Si toute histoire mythifie, alors tous les récits que nous avons sur l'émancipation sont mythifient l'émancipation. C'est-à-dire nous racontent une histoire. Comme disait Godard, quand j'étais petit, on me disait « raconte pas d'histoire ». Et maintenant que je suis grand, on me dit « il faut raconter des histoires bon. ». Donc, si toute histoire nous raconte une histoire, vous voyez au sens que je veux dire, est-ce qu'on peut s'appuyer sur un récit d'émancipation pour essayer de penser ce que c'est l'émancipation? Voilà la question. Est-ce qu'il y a une sorte de texte qui puisse ne pas tomber sous le coup de la critique que nous venons de voir et qui tient dans cette formule poétique des savoirs? Plus encore, si vous voulez bien, si d'une part tout mouvement d'émancipation commence ou s'entame par un événement dans le registre du geste, ainsi que j'ai essayé de vous le suggérer précédemment, si d'autre part il est vrai que tout événement se produit hors de cause, sans fin décidée, et si enfin il doit s'agir pour cette raison même de ne pas lier ce qu'on cherche à dire au jeu du sens et des causes finales, où trouvera-t-on une histoire dont on puisse dire qu'en dépit de l'a posteriori de sa rédaction, elle soit au plus près ou au plus juste de l'émancipation dans son moment initial? Vous voulez que je vous relise tout ça là? Ouais, parce que c'était long, hein. Mais tout, faut tout dire là, sinon ça marche pas. Donc je vous relis. Il y a trois conditions, trois si, et puis alors. Bon. Si d'une part, tout mouvement d'émancipation commence ou s'entame par un événement dans le registre du geste. Bon, ça on l'a vu. Si d'autre part, il est vrai que tout événement se produit hors de cause, sans fin décidée. Allez, j'étais content d'avoir trouvé la formule hors de cause. Commence hors de cause. Il n'y a pas de cause. C'est-à-dire que c'est pas une cause, l'émancipation. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'essaie de jouer un peu sur ces mots. Donc s'il est vrai que tout événement se produit hors de cause, sans fin décidée, c'est l'histoire du mouvement des enclosures. Il y a une fin, mais pas décidée. Et si enfin il doit s'agir pour cette raison même de ne pas lier ce qu'on cherche à dire au jeu du sens et des causes finales, c'est-à-dire essayer de produire un texte qui ne serait pas peu ou prou lié au jeu des causes finales et du sens, ou trouver ce texte, ou trouver une histoire dont on puisse dire qu'en dépit de l'a posteriori de sa rédaction, puisque forcément c'est rédigé après, elle soit au plus près ou au plus juste de l'émancipation dans son moment initial. Alors, à cette question, je n'ai pas la réponse. On n'est pas déçu. Je propose simplement, peut-être on pourrait dire arbitrairement pour commencer, vous en jugerez comme moi après, je propose de répondre à cette question pleine d'embarras, parce qu'elle m'embarrasse, cette question. Je pense qu'elle nous embarrasse. Je pense que nous avons énormément de mal à penser l'émancipation parce que nous n'avons que des récits mythifiants à son sujet. Trop d'histoires. Et pas d'histoires assez, assez lues de près, d'une certaine manière. Bon. Donc je propose à cette question pleine d'embarras, où trouver un texte qui nous raconte l'émancipation dans son événement? Je propose de répondre à cette question en me référant, sans justification préalable particulière, au récit que fait Descartes à la fin de la première de ses méditations métaphysiques. Alors c'est pour ça que j'avais mis le séminaire de cette année, j'avais mis deux citations en exergue, dont une de Descartes. Alors je sais très bien, je l'ai déjà dit lorsque j'avais lu cet exergue de Descartes, que c'est pas forcément dans l'air du temps que de lire Descartes comme je vais faire. Je me réfère très précisément à la fin de la première des méditations métaphysiques, qui raconte la même histoire qu'on peut lire dans le discours de la méthode, sauf que c'est pas tout à fait le même texte. À plusieurs égards, notamment le fait que, comme vous allez voir, le lexique de l'esclavage est mobilisé par Descartes à cet endroit-là, le récit qu'il fait me semble pouvoir être lu comme le récit d'une émancipation. C'est une proposition. Je n'ai pas d'argument, étant moi-même embarrassé, comme je viens de vous le dire, par la question que j'ai posée. C'est une proposition. L'auteur, donc l'auteur du texte, qui dit « je » dans le texte, l'auteur se suppose initialement dans un état mental où, tandis qu'il est par ailleurs bel et bien inscrit dans le langage, il raconte, hein, pour ce que nous avons été enfants avant qu'on d'être homme, etc. Bon, il a un certain âge. On peut d'ailleurs, en lisant le texte, trouver quel âge il a au moment où il écrit le texte. Hein. Bon, en tout cas, il est bien installé dans le langage. Il a vécu un certain temps. C'est pas un gamin. Bon. Il se suppose initialement dans un état mental où, tandis qu'il est par ailleurs bel et bien inscrit dans le langage, tandis, autrement dit, qu'il n'est pas dans l'état strict de l'infance dont je vais vous parler, il ne croit plus en rien. Il se suppose initialement dans un état mental où il ne croit plus en rien. En ce sens, il me semble qu'il peut être dit absolument désespéré. Donc je voudrais dramatiser le texte de Descartes, voilà, que j'ai toujours lu. Et je ne vous dirai pas à quel âge j'ai commencé à le lire, mais je l'ai toujours lu, comme je vous dis ce soir. J'étais pas vieux, c'est ça que je voulais dire. L'auteur se suppose initialement dans un état mental où il ne croit plus en rien. Il est donc, en ce sens, absolument désespéré. Il en est là parce qu'il imagine la possibilité d'avoir été trompé, absolument trompé, par tout ce qui lui a été jusqu'alors dit par les autres dans le monde, par conséquent social. Voilà qu'il se suppose, à un moment donné, alors, pourquoi ? Alors ben voilà, avec votre question, pourquoi vous m'en mettez dans les causes finales, tout ça, et justement, je cherche à en sortir. Je ne cherche pas pourquoi. Il le dit. Voilà. Qu'il est dans un état mental dans lequel il est désespéré, absolument désespéré, il ne croit plus en rien parce qu'il imagine qu'il a été, il imagine qu'il est possible qu'il ait été trompé, absolument trompé, par tout ce qui lui a été jusqu'alors, comme il dit, enseigné et porté en sa créance. Dit. Je supposerais, écrit Descartes, qu'un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper. Je supposerais qu'un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper. Alors, bon, pour que les choses, pour que ce que je veux dire soit clair, je parlais de domination symbolique la fois précédente. J'ai lu le livre de Chamaillou, « La société ingouvernable », par exemple, pour préparer ce séminaire. Et je dirais que, après tout, ce n'est pas une hypothèse si abstraite que ça. Qu'il y ait autour de nous des puissances qui relèvent d'un mauvais génie. D'un mauvais génie rusé, trompeur et puissant, qui emploie toute son industrie à nous tromper. On pourrait appeler ça, appeler ça comme vous voulez. Bon. Alors, d'imaginer avoir été absolument trompé, être la victime d'un mauvais génie radical, qui ne pense qu'à ça, tromper, et qui en plus a les moyens, il est puissant, etc. Bon. Il en résulte un état de dénuement total. Descartes, je cite, « Je penserai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures ne sont rien que des illusions et rêveries dont ce malin génie s'est servi pour tendre des pièges à ma crédulité. » Moi, je trouve ça, d'une certaine manière, magnifique. Voilà. je penserais que le ciel, l'air... Donc c'est le désespoir total, parce que même ça, il peut plus y croire. Il peut plus croire à rien, absolument à rien. Hein, il y a le mot crédulité qui vient dans le texte, je viens de vous le lire. Hein. Tout d'un coup, à un moment donné, il se dit « Et si on m'avait trompé en tout ?» Voilà. Et qu'on s'était servi de toute une sorte de choses pour tendre des pièges à ma crédulité. Voilà. Et c'en est au point que, je cite encore, « Je me considère moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang. » Comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Alors vient ou va avec ce dénuement incroyable, hein, va ou vient avec ce dénuement la résolution de ne recevoir désormais en ma créance aucune fausseté, ne plus croire en rien. Ne plus croire. Ce que peut comprendre, à mon sens, à ce moment-là, le lecteur, ce n'est pas seulement qu'une telle résolution suppose la résolution de ne recevoir désormais en ma croyance aucune fausseté. Ce que peut comprendre le lecteur, ce n'est pas qu'une telle résolution suppose un moment préalable de crise profonde, le dénuement radical dont je viens de vous parler, c'est que ce moment lui-même est devancé par un certain attachement au monde. Le moment dans lequel est prise la résolution de ne plus se lier à quelque fausseté que ce soit et de, disons, de se méfier de sa propre crédulité, disons les choses comme ça, ce moment suppose un moment de crise profonde qui lui-même est devancé par un certain attachement au monde. Toute une industrie, comme dit Descartes, de la tromperie, que donc je pourrais de mon côté rapprocher de l'art de la domination symbolique dont je vous parlais précédemment, toute une industrie de la tromperie munit le sujet de croyances qui en retarde la libération véridique du sujet, qui retarde pour ce sujet sa libération véridique. Sa libération véridique, je dis. C'est-à-dire... je ne sais pas comment dire ça, c'est la libération en vérité. Hein, parce que ce sujet crédule, peut-être qu'il a cru plusieurs fois déjà se libérer, mais pas véridiquement, puisqu'il était encore plein de crédulité, et qu'il n'était pas passé par la crise radicale qui le fait se défier absolument de tout discours qui ne vienne pas de lui. Qui viennent d'un autre, quel qu'il soit, qui pourrait être le malin génie. Voilà. Donc il s'agit de ne plus croire à rien, mais même aussi en personne. Moment de crise radicale. Avant ce moment de crise, si on suit le texte, il y a toute une industrie de la tromperie qui aura muni le sujet de croyance. Lesquelles croyances retardent la libération véridique, en vérité, de ce sujet. Et même une fois entrevu, ce dessein de ne plus recevoir aucune fausseté, comme dit Descartes, j'ai le dessein désormais de ne plus recevoir aucune fausseté, ce dessein est, poursuit Descartes, je cite, « pénible et laborieux ». Et une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire. Voilà. Qu'est-ce qu'un sujet en train de se libérer ? C'est un sujet qui passe par une crise radicale, d'où sort une décision difficile, qui n'est elle-même pas soutenue par ce sujet lui-même, dans l'état où il est devenu, parce que c'est pénible et laborieux. Attends, je veux dire par là que l'expérience de l'émancipation, si c'est vrai que c'est un récit de l'émancipation descartien, l'expérience de l'émancipation ne peut être que une expérience pénible et laborieuse si Descartes a raison. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas glorieux, l'émancipation. C'est pas glorieux. C'est fait de, s'est fait de cette crise épouvantable. Voilà. Et ensuite, après la crise même, même quand on a pris une résolution, on revient au dessin, sur le dessin, la décision qu'on a prise. C'est pénible, c'est laborieux. Une certaine paresse m'entraîne, nous entraîne insensiblement dans le train de la vie ordinaire, vie dans laquelle nous sommes trompés, etc., etc. Et donc dominés, si vous voulez. Hein. Et tout de même, dit Descartes, je n'ai pas coupé le texte, hein, c'est tout dans la foulée. Voilà. Et tout de même qu'un esclave qui jouissait dans le sommeil d'une liberté imaginaire, lorsqu'il commence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, craint de se réveiller. Donc ce n'est pas glorieux ce récit. Hein. Le sujet qui est en train de s'émanciper craint de s'émanciper. Il craint de se réveiller. Il ne veut pas se réveiller. Je trouve ce texte magnifique. Lorsqu'il commence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, il craint de se réveiller et conspire avec ses illusions agréables pour en être plus longtemps abusé. Ainsi, je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement de peur que l'éveil laborieuse qui aurait à succéder à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelques jours et quelques lumières dans la connaissance de la vérité, ne fût-ce pas suffisante pour éclaircir tous les ténèbres des difficultés qui viennent d'être agitées. Alors, ma proposition, qui n'est qu'une proposition, puisque je suis embarrassé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la critique rancérienne du récit historique, c'est de dire que là, peut-être, nous avons un texte dans lequel il y a à lire ce que c'est que l'émancipation et ce que nous y lisons, c'est que ça n'est pas, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, glorieux. Voilà. C'est tout. J'avais une note de bas de page, vous la voulez? Parce que je l'ai mangée. J'ai rien d'autre à vous proposer après la critique de Rancière que le texte de Descartes. Bon, voilà, c'est fait. Alors tout de même, c'était ça la note de bas de page, tout de même, s'il devait s'agir de traiter la question de savoir ce que peuvent être les traits d'allure d'un récit au plus juste, alors, de l'événement en général, de tout événement, de l'événement de l'émancipation en particulier, s'il devait pour moi s'agir de traiter la question de savoir ce que je ne fais pas, parce que j'ai interrompu, j'ai dit, ben voilà, je vous présente le cadre Descartes, et puis j'espère que ça va vous contenter. Bon. Mais s'il fallait traiter quand même un peu plus sérieusement la question, de savoir ce que peuvent être les traits d'un récit au plus juste, donc Rancière ne le fait pas dans Les Noms de l'Histoire, il critique très magnifiquement le discours des historiens, mais qu'est-ce qu'on met à la place, pour le dire de façon un peu simpliste, voilà. Donc s'il fallait traiter cette question, qu'est-ce qu'un récit au plus juste ? Je ne pourrais, je crois, si je devais faire ce traitement-là, je ne pourrais faire l'économie d'une réflexion sur la littérature. Et la façon d'entendre ce qu'il peut en être du fait de dire de l'histoire. Je ne dis pas de dire l'histoire. Vous voyez, voilà. La littérature partage, la littérature au sens relativement banal du mot, partage avec l'histoire, ou le récit historique, le fait de, je vous propose cette formule, de dire de l'histoire. Les deux sortes de textes disent de l'histoire, ont affaire à de l'histoire. Alors, il y a peut-être un texte qui dit « Nous, ce qu'on dit, c'est vraiment l'histoire. » Et l'autre qui dit « Nous, ce qu'on dit, c'est des fictions. » Et les premiers disent au deuxième « C'est pas vraiment l'histoire. Vos fictions, c'est de la fiction. » Vous voyez Mais peut-être il faudrait réfléchir à ce qu'il en est au juste du dire, du fait de dire de l'histoire, sans présupposer que là, c'est bien dit et là, c'est moins bien dit. Bon, ça serait un travail à faire. En tout cas, pour moi, c'est un travail que j'aime, que je crois que j'aimerais bien faire ce travail. Bon. Les références utiles à cette réflexion seraient nombreuses, pour moi, le sujet étant au fond discuté, même si c'est, en d'autres termes, depuis l'Antiquité. Le sujet, qu'est-ce qu'il en est du dire de l'histoire ? C'est un sujet qui est discuté depuis l'Antiquité, singulièrement depuis les questions adressées par Platon au dire poétique, qui sont des questions également constitutives de la philosophie comme telle. Donc c'est une question profonde qui vient de loin, la question du dire de l'histoire. Bon, donc ça serait un sujet qu'il faudrait traiter en reprenant les choses de très loin, pas seulement dans le contexte du désir d'être scientifique, des historiens, à partir des annales, etc. Si je suis rancière, il faudrait remonter donc au débat Platon, Aristote, etc. Bon. Mais je ne saurais pour ma part traiter toute cette affaire, c'est ça que je voulais dire dans ma note de bas de page, je ne saurais pour ma part traiter de toute cette affaire sans faire mention des romans de Claude Simon. Je pense que c'est un auteur essentiel pour cette question. Je dis bien des romans, parce que je pense qu'il les appelait comme ça. Des romans de Claude Simon, Leçon de choses, par exemple. Mais aussi, si ça vous intéresse, ces quatre conférences. Voilà. Et je pense qu'il y a dans... Alors, appelons ça la littérature de Claude Simon. C'est peut-être un des endroits dans lesquels je trouve les traits textuels, j'ai dit, au plus juste. Voilà, du compte-rendu en mots, littéraire, avec des lettres, en mots, de ce que c'est qu'un événement. Voilà. Je pense que c'est un auteur capital. Alors cette fois, j'ai plus rien en magasin pour ce soir. Hein.
Oui. Petite question. Quand vous dites on ne raconte jamais les événements tels qu'ils ont eu lieu.
Quand je dis.
On ne raconte jamais les événements tels qu'ils ont eu lieu. Est-ce qu'on peut comprendre qu'en fait, ce que cherche à faire le récit historique, d'une certaine façon, c'est de mettre au commencement une volonté d'explication, et c'est dans l'horizon de cette explication-là, ou pour au service de cette finalité-là, d'expliquer, en fait, et pas seulement dire ce qui s'est passé, mais de mettre du lien, en fait, logique là-dedans. Donc ce serait quelque chose comme une conduite du récit dans le sens d'une explication. Enfin, c'est une question, peut-être. Parce qu'en fait, en vous écoutant, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à distinguer entre expliquer et décrire, par exemple ? Et puis ça renvoie forcément à la question du témoignage.
Alors sur le décrire, je coupe, mais sur le décrire, c'est évidemment, je pense à ça quand j'évoque le nom de Claude Simon, et en particulier dans les quatre conférences ou le discours de Stockholm, enfin peu importe, où il théorise la chose, et je crois qu'il dit que la description est sans fin. Et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, c'est ce que j'ai essayé de dire tout ce soir, hein, c'est-à-dire l'événement est sans fin, mais dans tous les sens de l'expression. Et que peut-être le problème du discours, alors mais appelons-le explicatif ou historien ou historique, etc., c'est de vouloir avoir le fin mot des choses, de tenir ça dans un volume. Et on peut dire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de de s'obséder, comme j'ai fait à la fin de cette soirée sur le récit historique, dire, parce que c'est ça que je veux essayer de vous suggérer, l'événement est sans fin. L'événement est sans fin, et par conséquent, l'émancipation, si c'est un événement, et je crois que c'est le cas, est sans fin. C'est un geste, et le geste est sans fin. Et sans fin, ça veut dire qu'il est sans fin. Il n'y a pas de raison de penser qu'il s'arrêtera jamais. C'est sans fin, c'est interminable. Et c'est sans fin au sens où il n'y a pas de cause finale au moment même où il advient. Il n'est pas, ça ne sait pas où ça va, et nulle part le sens n'est a priori posé. Le sens ne peut être posé qu'après coup, et peut-être moyennant une disparition de l'aventure, de l'avènement, de l'événement, etc. Et donc, c'est important pour moi de marquer une distance avec les récits d'émancipation qui sont, à mon avis, des récits mystificateurs, parce que mythificateurs.
Oui, ça c'est clair. Enfin, en fait, c'est juste que. Enfin voilà, ça peut en tout cas ouvrir un questionnement sur tous ces verbes-là, en fait. Expliquer, décrire,
oui. Ah, oui,
constituer,
oui, oui.
Témoigner, enfin.
Tout à fait. Bah, la querelle entre Lyotard et Rancière était liée aussi à la question du témoignage. Hein.
Oui.
Pardon ?
Qu'en est-il de l'image, alors ?
Est-ce que vous pouvez un tout petit peu allonger la question ?
C'est-à-dire que là, on parle de récit littéraire, verbal, écrit, par rapport à peut-être des archives. Mais si le témoin oculaire serait une image ou un film,
la question
est-il de cette mystification ou mythification ?
Ben, la question est de savoir si le témoin oculaire peut, qui aurait donc, par hypothèse, si je comprends bien dans votre question, une image en lui de l'événement, puisqu'il y était. Est-ce que cette image, il peut en rendre compte autrement qu'en rentrant lui-même dans une logique de récit ? Et en tout cas, c'est une question qui a été posée au cinéma, et pas qu'un peu, et qui était dans la querelle aussi de l'époque, Lyotard, Rancière, etc. Oui, bien sûr. Là, tout de suite, j'étais en train de penser à Godard ou au Straub, c'est-à-dire... le cinéma ne peut arriver qu'après coup. Voilà. Et donc, je ne sais pas quelle expression convient, parce que rendre raison, ça ne va pas, expliquer, ça ne va pas. Donc, je n'ai pas trouvé mieux que de dire être au plus juste. Voilà. Au plus juste au sens où ça serait ajusté. À la fois juste au sens de... Quand on dit, c'est juste ce que tu dis, c'est au plus près de la chose, etc. Mais dès que ça parle, on n'y est plus dans l'événement. S'il est vrai que l'événement est en lui-même infantile, etc., etc. Si c'est de l'ordre du geste... Les textes de Michel Guérin que je vous ai lus la dernière fois, c'était en fait... Pour moi, en tout cas, ce sont des textes extrêmement... je ne vais pas dire problématiques, parce que si je dis problématique, on pensera que je critique Michel Guérin. Non, je pense que ça pose des problèmes fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire être transi par un geste ? Et est-ce que ce n'est pas ça, l'émancipation ? L'émancipation, c'est le moment dans lequel celui qui... est une sorte de sujet positionné d'une certaine manière dans l'existence, comme dominant ou comme dominé, peu importe, pour le moment, ce sujet est transi par un opéré qui est de l'ordre du geste, c'est-à-dire sur quoi il n'a pas le mot, il n'a pas de mot, il n'a pas le... On ne sait pas pourquoi on s'émancipe, si on s'émancipe. Voilà la thèse que je vais soutenir de plus en plus. C'est pas bien soutenu parce que j'ai pas la contre-argumentation. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je réfléchis que dans un seul sens.
je me posais une question que je ne vais pas réussir à très bien articuler, mais je me souviens de l'an passé, et, enfin, je crois que c'était l'an passé, et d'un moment sur l'anarchie, avec la lecture de Catherine Malabou. Là, l'émancipation, il y aurait un commencement, qui ne serait pas un commencement, qui serait un événement, puisque pas orienté vers une fin, mais il n'empêche qu'il y a un geste, et puis il y aura des suites. Et l'anarchie, il me semble que tu faisais une décomposition du mot et ça voulait dire sans début ou sans commencement. Alors est-ce qu'il y a une articulation ou pas, ou ce sont deux moments du raisonnement complètement indépendants?
Alors il faudrait réécouter les bandes son de l'année dernière pour savoir si j'ai dit commencement à ce moment-là.
Mais j'ai regardé les écrits, enfin les textes sont pas sur le site.
Eh oui, bah oui, enfin, je ne pas.
Toute la précision.
Ça me laisse une marge de manœuvre. Ça. Mais donc, il faudrait effectivement regarder. Mais la bonne preuve, ça serait la bande-son, parce que le texte, je peux toujours le réécrire. Alors, si j'ai dit commencement, et si je rapportais au propos de ce soir, alors j'ai mal parlé l'année dernière. J'aurais dû dire origine. Mais l'année dernière, peut-être que... Je ne suis pas sûr d'avoir dit commencement, hein, quand même. Il faudrait vérifier. Mais peut-être aussi, je prenais le langage qui me permettait de parler avec ou de Catherine Malabou, avec son langage à elle. Là, ce soir, j'étais chez quelqu'une dont Catherine Malabou, dans mon souvenir, ne parle pas dans son livre, qui est Hannah Arendt. Et là, chez Hannah Arendt, c'est clair que c'est commencement versus, que c'est origine versus commencement, etc. Et que le mot commencement sert à dire quelque chose qui correspondrait à l'anarchie de Catherine Malabou, à mon avis. Voilà. C'est-à-dire un commencement qui n'est pas, qui n'a pas d'arché, qui est sans, il n'y a pas d'archi. Commencement, ça commence, point.
Je me demandais si un mot alternatif, une alternative à expliquer et peut-être même décrire, bah justement, ce ne serait pas, mais dans le sens de ce que vous posiez comme question, enregistrer. Là, je pense aussi à la façon dont même tu as repris là la question à l'instant en disant... il faudrait voir l'enregistrement parce que ce que j'ai écrit, je peux toujours le réécrire. Mais est-ce que cette description interminable, c'est pas une espèce d'enregistrement Est-ce que c'est pas son ambition, cette description d'enregistrer sans fin?
Et on aurait le commencement. Dans la suite, je vais quand même évidemment être obligé de m'intéresser au devenir du commencement. C'est-à-dire que si l'émancipation, ça commence par un geste, après le geste qui commence, il y a autre chose. Et à un moment donné, il y a... Le passage de ce geste dans du langage. Et donc il y a un devenir parlé, je pense quand même, du geste. Un devenir... La question, c'est de ne pas penser que parce que ça devient langage, c'est là dans le langage que se trouve la vérité du commencement. Que peut-être à partir du moment où c'est dit, c'est perdu, le commencement. Qu'à partir du moment où on est dans la représentation, c'est perdu. Alors, est-ce qu'un enregistrement est une représentation je ne sais pas, il faudrait... A priori, je dirais que non, s'il est possible d'imaginer un appareil enregistreur qui soit purement mécanique, qui n'ait pas de viseur, par exemple. Mais dès qu'il y a un viseur, et de toute façon, dès qu'il y a une pause... de l'appareil enregistreur, il y a une intention qui met quelque chose dans l'enregistrement lui-même qui n'est pas du pur enregistré. Qu'est-ce que c'est que... De quelle essence est ce qui nous transit dans l'allure ou dans l'élan, comme dirait Michel Guérin, d'un geste. De quelle essence c'est, de quelle nature c'est. Est-ce que c'est matériel? Voilà. Est-ce que c'est de l'énergie? Peut-être que c'est de l'énergie qui n'est pas enregistrable, enfin qui passe sous les radars, les filtres de l'appareil enregistreur. Voilà. Est-ce que c'est pas facile, mais est-ce que c'est pas plus simple d'admettre qu'il y a quelque chose qui échappe à l'expression? Point. Et que c'est là que se situerait le fait finalement que les humains sont des existants qui font des gestes, qui les sortent de leur situation.
Ça voudrait dire, dans le cadre de l'histoire, qu'il y aurait aussi des gestes qui échappent à la documentation, en fait.
Que, oui.
Au document.
Oui.
Oui. Quelque chose qui...
Oui.
Il y a un message de Jérémy.
Oui.
Alors, merci Pierre-Damien pour cette séance. Je pense à quelque chose. Il peut y avoir dans un récit et les traces d'un événement sans que l'événement ne soit raconté de manière directe. En tout cas, cela me paraît une possibilité littéraire.
Ah ben, je dis à Jérémy que je suis d'accord avec lui complètement à partir du moment où on donne du poids aux mots traces. Voilà. Alors oui, que l'événement se trace, voilà. Mais se dit pas, il se trace. Est-ce que j'ai pas utilisé ce mot à un moment donné ce soir quand je parlais des traces de l'enfance dans le corps de l'adulte, par exemple. Voilà. Donc je suis d'accord avec la notion de trace, oui. D'ailleurs, moi je ne sais pas ce que vous a fait la lecture du texte de Descartes, mais si elle vous a fait quelque chose, est-ce que ça n'est pas parce qu'il se trace là, et pour longtemps, quelque chose, qui est de l'ordre effectivement du commencement. En tout cas, du commencement, pour celui, enfin, on ne sait pas trop qui c'est, qui dit « je » dans le texte.
Est-ce qu'il y a une différence entre le mot, est-ce qu'on peut le changer, l'événement est sans fin, et le réel qui advient, qui vient vers nous, et sans fin, c'est-à-dire être dans le réel, comme un animal est dans le réel, et sans fin, mais... Le fait que ça soit un événement, est-ce que c'est parce que c'est un événement humain ou quand on observe un paysage, l'esthétique d'un paysage, une beauté sans fin, du temps qui passe sans agir dessus, voilà, est-ce qu'il y a une différence entre événement et réel? Ou c'est le même mot?
Ben, je suis assez tenté pour dire qu'il y a du réel dans le geste, dans la mesure. Alors c'est toute la différence entre l'index et l'indice. Je pense à un... Comment est-ce qu'il s'appelait son nom ne revient pas... Qui a essayé de fonder une théorie qu'il appelait l'anthropogénie et qui marque une différence très nette entre le réel et la réalité. La réalité, c'est ce qu'on indexe, c'est-à-dire ce qu'on désigne avec des mots, des catégories, des schèmes qui sont du côté du sujet. Et le réel, c'est ce qui vient des choses, du monde, etc., qui n'a pas de sens. Qui est ce qu'il est, point, qui ne cesse d'arriver. Alors, je pense que la question, c'est la résonance du réel dans un sujet qui a le sens de la réalité. C'est ça, la question. C'est ça, nos questions à nous d'existants. C'est la résonance du réel, ce qu'on peut appeler le réel, ou ce que peut-être une certaine psychanalyse appelait le réel, chez un sujet qui a, je pèse les mots, par ailleurs le sens de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des schèmes, qu'il y a des intentions, qui est socialisé, qui a un langage partagé, etc., etc. Et ce langage nous met au fait de la réalité, mais jamais du réel. Voilà. Et bien, peut-être qu'il y a des moments dans nos vies où du réel nous arrive. Et à ce moment-là, ça bascule.
Le sujet qui a du sens de la réalité, ça serait un événement.
Que
à partir de, donc si on est capable de...
Bah, Descartes dans le récit qu'il, enfin, le récit, admettons le mot qu'il fait, si on prend au sérieux, on dit que c'est histoire de malin génie, etc., il est dans un état où il perd le sens de la réalité. Il est plus capable d'être dans la moindre relation sociale avec quiconque, il partage plus rien avec personne. Il a perdu le sens de la réalité. Il dit même, j'ai plus de corps, j'ai plus de sens, j'ai plus d'yeux, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus... je crois plus... voilà. La réalité s'est absentée. En revanche, il est dans le réel à ce moment-là. Si on veut prendre ta remarque, enfin, prendre ce langage-là. Ce qui lui advient, c'est le réel de l'humanité.
Oui, c'est le texte de Peter Hank sur les enfants, d'être dans le réel.
Le texte de ?
Sur de Peter Hank sur l'enfant, un de ses premiers textes. D'être dans le réel tout le temps.
Oui.
Ce temps de l'enfance que tu écrivais.
Mais est-ce qu'il faut comprendre du coup que tout commencement est événementiel ? Parce que là, dans le passage que vous avez lu de Descartes, on peut dire que ce je ne crois plus en rien, enfin, cet état, cette crise de désespoir absolu, est un événement pour lui. Enfin, en tout cas, c'est là que ça commence.
Quand il dit je ne crois plus en rien, l'événement a eu lieu déjà.
D'accord.
Il n'est pas dans le texte, l'événement.
Non, il n'est pas dans le texte.
Le je ne crois plus en rien signale, si j'ose dire.
Une trace.
Ouais, c'est l'enregistrement, peut-être, dans une phrase,
oui.
Du fait qu'un événement a eu lieu qui est irrémédiable. Pour le sujet Descartes, qui ne peut plus être après le même qu'il était avant.
Okay. Mais bon, ça. Est-ce que tout commencement est un événement ?
Moi, et toujours.
Oui. C'est une vraie question.
Moi, je pense, j'ai lu plusieurs fois les textes, comme j'ai pu, les textes d'Anna Arendt, c'est-à-dire, bon, puis c'est une question qu'on trouve dans d'autres textes. Je propose de penser que tout commencement est un événement. Et que quand c'est pas... enfin, je sais pas comment dire ça. Oui. Tout commencement est un événement. Alors cet événement, il est plus ou moins... cet événement, il est plus ou moins, alors on va dire, on réfléchira sur le mot, enregistré, mythifié, composé... phrasé, etc. Bon, mais il y a un moment, quelque part, où il a lieu, et c'est pas un endroit où il y a des phrases. Je ne sais pas si c'est un endroit où il peut y avoir une caméra, mais c'est en tout cas pas un endroit où il y a des phrases. Pour moi, c'est difficile parce que les textes de Rancière sont extrêmement importants pour moi, mais revenant sur cette histoire, le différent, etc., finalement, je serais plus du côté de Lyotard et de dire... Bon, j'avais quand même fait un livre qui s'appelle « Le différent esthétique », quand même, hein, dans lequel il y avait un petit peu de choses concernant, d'une part, le propos de Lyotard, et d'autre part, ce que j'avais appelé le silence de Monk, le pianiste de jazz, en différent avec la musique, le différent de Monk avec la musique, et en fait qui se manifeste dans un fameux enregistrement, etc., dans lequel il arrête de jouer. On attend qu'il joue et il ne joue pas. Donc c'est le silence qui marque. Donc rien n'est dit, rien n'est harmonisé, etc., à ce moment-là. Donc, pardon.
Je me demandais si cet événement, il n'advenait pas plus à un moment où, où le sujet était sous pression. Je dis ça parce que la façon dont tu en parles là rappelle la conversion dont tu parlais dans le précédent séminaire et qui était produite sous pression,
oui.
Avec la pression de l'olive, etc.
Bah, tu veux dire le précédent séminaire ou la précédente séance ? Non, le précédent séminaire.
Le précédent séminaire sur
d'accord.
L'urgence.
D'accord. Parce qu'effectivement, c'est revenu aussi dans la précédente séance avec la métaphore, j'y reviendrai la prochaine fois, du circuit électrique qui saute, la mise sous pression. Donc le sujet est muni pour ne pas sauter, pour ne pas, être embarqué par une événementialité qui le déborderait. Il est muni pour ça, de phrases, de principes, etc. Il est socialisé. Et on peut imaginer que ça soit comme une sorte de torrent qui vient, qui déferle sur les murailles, la munition, etc. Et qu'à un moment donné, ça craque. Quoi. Oui. Oui, je me représente, s'il faut parler comme ça, j'ai dit j'imagine, à un moment donné, je pense ce soir, je crois que j'ai dit ça, j'imagine que ça se produit sous la forme, alors on peut avoir plusieurs métaphores, un déferlement. Comme une inondation, à un moment donné, les digues qui sautent, quelque chose comme ça, ou je prendrais la métaphore du circuit électrique dans lequel il y a une montée en tension telle que ça saute. Voilà. Mais c'est ça l'événement. Il y a quelque chose de la personne qui saute, il y a quelque chose de la personne qui a le sens de la réalité, qui est installée dans la réalité, pour reprendre ce qu'on disait il y a quelques minutes, qui est au moment où, pour elle, il y a un événement, et quelque chose de cette personne qui saute. De sa défense, de sa munition, de ses remparts, de ses phrases, etc. Avec lesquelles il ou elle, d'ordinaire, se dit ou croit qu'il se dit.
Voilà. Mais est-ce que tu crois que c'est ce qui arrive dans le cas de... C'est ce qui arrive à Niepce, puisque c'était un de tes exemples, ou que c'est ce qui arrive... Parce que... Bon, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que tu continues de commenter le geste et la parole.
Oui, ça va même s'aggraver, oui. Ouais.
Donc il est question aussi dans le geste et la parole de la poussée, pour prendre ton vocabulaire, mais des silex taillés. Et donc dans ces deux cas-là, dans des cas d'invention technique, est-ce qu'il y a crise à ce point ou de ce type-là?
Alors, j'ai pris l'exemple de l'invention, j'ai dit à un moment donné, pour ne pas faire de ce sujet qu'un sujet dramatique. Voilà. Mais n'empêche que je pense que il n'y aurait pas d'invention qui soit anticipée.
Oui.
Donc... Il n'y a pas d'invention qui n'implique... Alors ça peut être montré plus dans le détail par des gens qui s'y connaissent vraiment.
Tu ne crois pas qu'il y a des inventions insouciantes?
Ah mais le fait que le sujet que je suis saute à un moment donné, c'est pas forcément... Pas forcément dramatique, au sens banal du terme. Ça peut l'être, évidemment. Si le sujet est attaché à ses défenses, voilà. Mais si, alors c'était la, oui. Rappelez-vous le morceau de texte de, comment il s'appelle ?
De Victor
Ségalen, ouais, que j'avais lu il y a 2 ans, je crois, où c'est ça qui se passe. À un moment donné, il lâche, le sujet avec ses défenses lâche, et c'est un grand bonheur. Voilà. Ça peut être... Ça, c'est peut-être les problèmes que j'aurais avec Lyotard et son attachement au sublime. Moi, je distinguerais entre... pour moi, les moments sublimes sont peut-être des moments dans lesquels le sujet est débordé, je ne sais pas comment dire ça, dramatiquement. Mais il y a des moments dans lesquels le débordement est probablement un vrai bonheur. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement malheureux.
Et dans le cas de l'invention, on pourrait appliquer la fin du récit de Descartes aussi sur le caractère laborieux. C'est-à-dire que le commencement qui se fait, enfin l'événement, oui, de l'invention, elle est reprise éventuellement par de la paresse, etc.
On revient aux idées d'avant, et donc on fait de la photographie comme on faisait de la peinture, etc. Oui, tout à fait. Le sujet se reconstitue dans ses munitions, dans ses défenses, etc. Et ne laisse pas, alors sous prétexte de logique, il ne laisse pas la dynamique de l'événement se poursuivre. Je plaide pas pour autant pour que le sujet soit débordé tout le temps. Voilà. Je dis que il faut accepter de penser qu'il puisse l'être.
C'est présent qui aurait inventé la figure de ce malin génie qui le tromperait, enfant qui puisse s'émanciper.
C'est pour cette raison qu'il l'aurait inventé.
Ce génie, malin génie, aurait pu être dans sa tête, comme un délire paranoïaque, dans lequel il s'est émancipé pour qu'il y ait des révélatrices, créatrices qui viennent bouleverser cette.
Moi, je ne sais pas si je comprends bien, mais parce qu'on peut lire, je pense que c'est souvent lu comme ça, parce qu'en fait, en réalité, on ne lit pas la première méditation de Descartes. On lit la suite une fois que la crise est passée et que on reconstitue toute la solidité du monde, qu'on prouve tout et que ça baigne, quoi. Voilà. Mais moi, en fait, je m'arrête là. Alors on peut dire c'est une fiction, donc il invente le malin génie parce qu'en fait il sait qu'il va écrire la suite et que ça va être facile pour construire le roman finalement, hein, d'avoir cette fiction du malin génie qui me trompe, etc. Je vous propose, en fait ce que j'ai fait ce soir, c'est de lire à l'envers, de lire dans l'autre sens et de dire en fait l'idée du malin génie chez Descartes vient parce que c'est une façon synthétique de rendre compte d'une crise épouvantable dans laquelle le sujet est dans un état de malheur absolu parce qu'il pense que, alors on peut dire il a été trompé, il s'est trompé toute sa vie jusqu'à présent. Et le nom de cette tromperie maximum, pour résumer, c'est malin génie. Et non pas lire dans l'autre sens, il y a un malin génie, donc j'ai été trompé, etc. C'est tout d'un coup se rendre compte que les munitions avec lesquelles on a construit sa vie ne sont pas les bonnes.
Mais je me disais en t'entendant tout à l'heure que, enfin, effectivement, tu ne lis pas des cartes du tout comme on le lit habituellement. Et je me disais qu'on en a fait un écrivain douteux. Non seulement doutant, mais douteux, c'est-à-dire qu'on présente, la plupart du temps le doute comme stratégique, enfin son doute à lui, méthodique.
C'est après que le doute devient méthodique. C'est après. Mais il me semble que le texte dit un moment absolument critique. Et c'est là que le monde est refait. Pas au sens, on va dire, refaire quelqu'un, c'est l'avoir, non, je veux dire, est remis en chantier.
Peut-être que dans ce que j'ai entendu ce soir, je tire un peu le propos vers autre chose, mais j'ai l'impression que ce qui réside du côté de l'émancipation, qui est à la fois le commencement, le geste, quelque chose de la technique, le présent, etc., et qui s'oppose à la fin, par exemple, mais aussi, ça invalide aussi tout ce qui concerne le projet. On ne peut pas non plus dire à la fin.
Le projet, c'est avoir la fin en tête.
Oui. Et en fait, je me demande comment quelque chose comme le présent, le réel, ou le geste technique sont des choses qui se rapprochent, en fait. Ce sont des notions qui se ressemblent ou qui se rapprochent d'une certaine façon.
Alors, sur le geste technique, peut-être que Michel Guérin répondrait que la technique est un devenir du geste. Mais qu'il n'y a pas de geste en soi qui soit immédiatement au commencement même de technique. Que la technique est un devenir du geste. Mais ça ne répond pas à toute la remarque qui était.
Comment même les notions de réel, de présent, de technique
Ben, moi j'ai envie de dire que si jamais j'ai le sentiment du présent, c'est que je n'ai aucune perspective. Parce que la perspective est même dans la technique picturale, par définition un au-delà, un là-bas, un plus tard. Il me semble que quand je suis présent au monde, ou plutôt quand le monde se présente à moi, vraiment, je n'ai pas de projet quant à ça. je n'ai pas de projet quant au présent. C'est le drame du projet pour moi que d'être jamais au fait du moment et d'avoir toujours la fin en tête.
Lié
à
la naissance.
À la naissance.
On parle aussi de ça.
Alors, pas dans mon souvenir, pas dans les textes que j'ai relus pour cette séance. Il ne me semble pas qu'il soit question de la naissance. Ça, c'est plutôt...
Dans le texte sur l'action, si, il me
semble. Oui, peut-être, oui.
Il me semble que dans le chapitre sur l'action, le cinquième chapitre de la condition du moral, il me semble qu'elle établit quand même un rapport entre initier quelque chose... Oui.
Moi, je me suis appuyé là surtout sur des textes. Il y a plusieurs traductions en français. En fait, on croit que ce n'est pas les mêmes textes, mais ce sont les mêmes textes, sauf qu'ils ne sont pas publiés de la même façon dans la traduction française. Mais disons, je ne sais plus, qu'est-ce que la politique ? C'est dans ces textes-là. Et je ne crois pas qu'elle parle de naissance à ce moment-là. C'est bon pour aujourd'hui.